Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci à Luciano et Naomi qui nous ont généreusement accueillis chez eux depuis hier. Et c'est vraiment une joie d'être parmi vous ce matin. Je vous partage aussi les salutations de l'Église de Grâce dont je suis le pasteur, qui se réunit au moment même. Et voilà, je suis en train de poser ce qu'il faut pour... Si vous voulez suivre la lecture qui va servir de base à la méditation de la parole de Dieu ce matin, je vous invite à ouvrir le livre de la Genèse et nous allons être dans le chapitre 18, dans la deuxième partie du chapitre 18. Voilà. Genèse chapitre 18. Je vais lire à partir du verset 16, mais avant ça, juste vous donner quelques informations pour vous remettre dans le contexte, pour nous remettre dans le contexte et comprendre le récit que nous allons lire. On est dans la vie d'Abraham. Abraham a été choisi par Dieu. Il lui a demandé de quitter son pays, sa patrie, et de devenir un nomade alors qu'il était correctement installé dans le foyer de la civilisation humaine. On considère que la Mésopotamie, c'est là qu'il y a les plus anciens foyers de civilisation qui ont commencé à faire vraiment des empires avec une culture, une agriculture organisée, etc. Et Dieu lui a dit, quitte tout ça et viens dans le pays que je vais te montrer, que je vais donner à ta descendance, mais toi tu seras étranger, nomade dans ce pays-là. Abraham a obéi, il a... obéit à Dieu par la foi et Dieu l'a conduit à travers ses pérégrinations. Et le problème d'Abraham, c'est qu'Abraham est marié avec une épouse qui l'aime de tout son cœur mais qui est stérile, et Dieu lui promet une immense descendance alors que sa femme n'arrive même pas à avoir un seul enfant. Et Dieu lui dit, ça va venir, ça va venir, ça va venir. Quand Dieu l'appelle, Abraham a 75 ans et là, Abraham a 99 ans et il n'y a toujours pas d'enfant. Et à un moment, alors qu'il est nomade, dans un des endroits où il campe, Dieu lui a donné beaucoup de biens, il campe avec ses troupeaux, avec ses serviteurs, il a vraiment une petite ville ambulante qui le suit et dont il est le seigneur, le maître, eh bien, il est à l'endroit où il campe et il voit passer sur le chemin qui traverse son camp trois personnages énigmatiques. Le texte ne dit pas s'il a eu une révélation spéciale ou si c'est une intuition, mais il reconnaît que ce sont des personnages importants et probablement qui ont un rapport avec le Dieu qu'il a appelé à quitter sa patrie. Et il les invite à se joindre à lui et il les supplie de manger avec lui. On sait que dans la culture orientale, il y a aussi une tradition de l'hospitalité. Alors il leur dit, restez, reposez-vous. Je vais partager un morceau de pain avec vous, et en fait, de morceau de pain, il y a tout un festin qui est préparé, et il mange avec ces trois personnages énigmatiques, et il se trouve que parmi les trois, il y en a un qui lui dit « L'année prochaine, je reviendrai vers toi, et Sarah aura un fils. » Donc, c'est ce repas-là que vous connaissez probablement, si vous connaissez l'histoire d'Abraham, mais la première partie du repas, on ne la voit pas. On ne va pas la lire ce matin. Si vous voulez la découvrir chez vous, il faudra lire le début du chapitre 18. Et le repas se termine. Et voilà maintenant ce qu'on va lire à partir du verset 16. Ces hommes se levèrent pour partir en se dirigeant du côté de Sodome. Abraham les accompagna pour les reconduire. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Abraham deviendra une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. En effet, je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi, l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorre a augmenté et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement d'après le bruit venu jusqu'à moi. Si ce n'est pas le cas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore devant l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, Supprimeras-tu vraiment le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Les supprimeras-tu aussi et ne pardonneras-tu pas à cette ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, si bien que le sort du juste serait identique à celui du méchant, cela ne correspond certainement pas à ta manière d'agir. Celui qui juge toute la terre n'appliquera-t-il pas le droit? L'Éternel dit, si je trouve 50 justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit, voici que j'ai eu l'audace de parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Peut-être à ces 50 justes en manquera-t-il 5. Pour 5, détruiras-tu toute la ville? L'Éternel dit, je ne la détruirai pas si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être y trouvera-t-il 40 justes? L'Éternel dit, je ne lui ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite pas et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. L'Éternel dit, je ne lui ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai eu l'audace de parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. L'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 20. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite pas et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. L'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut fini de parler à Abraham et Abraham retourna chez lui. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu et je vous invite à réfléchir à 3 points. J'ai intitulé ce message « Annonce du jugement, importance d'un médiateur ». Et dans un premier temps, j'aimerais qu'on voit la rencontre entre Abraham et l'Éternel en personne. Abraham a parlé directement avec l'Éternel. Il a vu l'Éternel. On va voir de quelle manière et sous quelle forme. Ensuite, l'Éternel jugera les pécheurs, c'est une réalité. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle pour nous qui sommes sauvés, mais pour ceux qui périssent, c'est l'annonce d'un jugement terrible. Et nous sommes porteurs des deux, on ne peut pas édulcorer l'Évangile. Des fois, on aimerait bien enlever, pour faire plaisir aux gens, la mauvaise nouvelle et ne garder que la bonne. Mais qu'est-ce que ça veut dire la grâce si on ne parle pas du péché ? L'Éternel jugera les pécheurs. Et le troisième point, l'Éternel suscite un meilleur médiateur qu'Abraham. Car on va voir qu'à travers l'intercession d'Abraham, cela pointe vers un médiateur qui lui est bien supérieur à Abraham et bien plus parfait qu'Abraham et bien plus efficace dans sa négociation avec Dieu, dans sa médiation entre Dieu et son peuple. Alors Abraham rencontre l'Éternel en personne. Ce chapitre 18 de Genèse est connu comme une théophanie. Théophanie, c'est un terme. Théo, vous reconnaissez le mot Dieu en grec. Et phanie, c'est manifestation, apparition de Dieu. D'accord ? Et c'est un des passages de l'Ancien Testament qui nous montre un moment où un homme a rencontré une manifestation concrète physique de Dieu face à lui. Un des 3 personnages qui discutent avec Abraham est l'Éternel. Il parle comme étant lui-même l'Éternel. Et les 2 autres, manifestement, sont des anges. Et si on avait un doute, il suffit de lire le premier verset du chapitre 19. Les 2 anges arrivèrent à Sodome vers le soir. Autrement dit, il y en a 2 qui se sont levés et qui sont allés, qui avaient mangé avec Abraham et qui sont allés vers Sodome et Gomorrhe. Et on retrouverait leur histoire auprès de Lot. Vous connaissez l'histoire. Ils ont fait sortir Lot et sa famille pour qu'ils échappent au jugement de Dieu sur les villes de Sodome et Gomorrhe. Ces 2 personnages-là qui avaient mangé avec Abraham ont donc poursuivi leur mission envoyée par Dieu et sur les 3, celui qui est resté, eh bien, parle à Abraham comme étant lui-même l'Éternel. À d'autres endroits, ce personnage énigmatique apparaît Et il est parfois appelé l'ange de l'Éternel. Et peut-être que dans les commentaires bibliques que vous avez lus ou dans vos Bibles, à ce moment-là, le mot ange a un A majuscule. C'est une façon d'essayer de distinguer cet ange qui a une dignité particulière par rapport à un ange commun. Par exemple, celui qui apparaît dans le buisson ardent à Moïse, c'est l'Éternel. Celui qui lutte avec Jacob et qui lui déboîte la hanche, à tel point que Jacob va être baptisé celui qui lutte avec Dieu, Israël, c'est l'Éternel. Le guerrier, chef de l'armée de l'Éternel qui apparaît à Josué avant la prise de Jéricho, c'est l'Éternel. Et quand Josué lui parle, il finit par lui dire « Mais retire les chaussures de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et on voit qu'à chaque fois, ces personnages-là ont une dignité que le texte suggère comme étant une dignité divine. La Bible ne dit pas cela de tous les anges, même si on doit respecter les anges, ce sont des serviteurs au service de Dieu, alors que cet ange-là, cet envoyé-là, il a une dignité particulière et on peut et on doit lui témoigner le même respect qu'à Dieu lui-même. Il est différent d'un simple ange par sa dignité qui est clairement attribuée. Si vous voulez réfléchir sur la supériorité de cet ange de l'Éternel par rapport aux autres anges, eh bien vous lisez Hébreux chapitre 1, et là vous avez une démonstration biblique de la supériorité de cet ange qui n'est autre que Jésus-Christ. Jésus lui-même, dans l'évangile de Jean, lorsqu'il parle aux pharisiens, fait allusion à cet événement que nous venons de lire. Voilà ce qu'il dit dans Jean chapitre 8, versets 56 à 58. « Votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent « Tu n'as pas 50 ans et tu as vu Abraham ?» Abraham, c'était 2000 ans avant eux. Donc vous imaginez, c'est comme si vous disiez « Fred, hier, moi j'ai parlé avec Jules César. » On se dirait « Tiens, il yoyote, il a pris un coup de soleil, là, le soleil est chaud à Toulon, il aurait dû mettre un chapeau. » Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. Je suis. Et Jésus n'utilise pas cette expression « je suis » à la légère. Il est en train de faire allusion au nom saint de Dieu qui désigne Dieu, celui qui est par lui-même. C'est la signification de Yahweh qu'on a chanté tout à l'heure dans le cantique. Celui qui est, quand Dieu va envoyer Moïse vers le peuple d'Israël et que Moïse lui dit « Mais je dois leur dire, mais qui m'a parlé ?» Tu leur diras « Je suis ». C'est « Je suis » qui m'envoie. Donc quand Jésus utilise les « Je suis » particulièrement dans l'évangile de Jean, il est en train de dire « Je suis » quand il dit « Je suis le bon berger, je suis la porte, je suis le chemin » et que finalement il dit tout simplement « Je suis ». Il est en train de dire « C'est moi Yahweh, c'est moi l'Éternel que vous rejetez. » Et les Juifs comprennent très très bien, parce qu'à plusieurs reprises, quand Jésus leur dit ça, ils veulent le lapider en disant « Toi qui n'es qu'un homme, tu te fais égal à Dieu. » Ils ont bien compris l'allusion et la démonstration de Jésus. D'ailleurs, qui pourrait dire « J'ai quelqu'un qui a vécu il y a 2000 ans, souhaitait me rencontrer, se réjouissait de me voir, il m'a vu ?» Jésus est en train de faire allusion à ce repas qu'il a pris avec Abraham 2000 ans avant pour leur dire « Cet ancêtre que vous revendiquez, ce Abraham que vous revendiquez en pensant que parce que vous êtes ses enfants biologiques, vous êtes en règle avec Dieu, eh bien cet ancêtre-là, lui, il s'est soumis à moi. Et vous, vous me rejetez. Vous n'êtes pas ses enfants spirituellement. » Ce genre d'événement nous invite aussi à réfléchir à la grandeur et à l'incompréhensibilité de ce Dieu qui se révèle à nous en Jésus-Christ et qui nous dépasse. Cette fameuse doctrine qui est au cœur du christianisme, on ne peut pas être chrétien sans elle, qui parle de la double nature de Christ. Jésus, il est à la fois vraiment Dieu et vraiment homme. Si vous enlevez un des deux termes, ce n'est plus le Dieu de la Bible. Et ça désamorce toute la logique du salut et de l'évangile. Parce que le fait qu'il soit vraiment Dieu et vraiment homme, on va le voir plus tard, ça fait de lui le médiateur, l'intercesseur parfait voulu par Dieu. Auprès de Dieu, il représente les hommes légitimement parce qu'il est vraiment homme et que c'est un homme saint et parfait, le seul de toute l'humanité. Et auprès des hommes, il représente Dieu parce qu'il est vraiment Dieu. Jésus est venu auprès d'Abraham. C'est une préincarnation, ça a préfiguré. Il a bien fallu qu'il prenne pendant un temps limité, je ne sais pas combien de temps ça a duré, est-ce qu'il est apparu, combien de temps il est apparu sur le chemin avant d'aborder le campement d'Abraham avec les deux autres anges, mais il a bien fallu qu'il prenne un corps pour manger le repas qu'Abraham avait prévu, Abraham et Sarah avaient prévu pour lui, ont mis en place pour lui. Ça préfigurait qu'un jour il s'incarnerait. Jésus est vrai Dieu, fils du Père. Il a les mêmes qualités que lui. Il ne change pas. Il est l'Éternel. Des fois, on simplifie les choses en pensant quelque chose de faux, en se disant l'Éternel de l'Ancien Testament, c'est le Père. Les amis, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont éternels et ils sont présents dans l'Ancien Testament, dans les Évangiles, dans les Actes des Apôtres, dans le Nouveau Testament, de toute éternité, avant et après nous. Il n'y a pas le Père dans l'Ancien Testament, le Fils dans les Évangiles et le Saint-Esprit dans les Actes, et les deux autres font autre chose pendant ce temps-là. Dieu est pleinement à l'œuvre, dans toute son œuvre. Si vous voulez juste un terme, c'est parfois intéressant de réfléchir aux termes précis qu'on choisit en théologie pour parler des choses. Eh bien, on parle en théologie pour désigner Jésus de Christ à Sarkos. Sarkos, en grec, ça veut dire la chair. A, c'est le A privatif. Donc, à Sarkos, ça veut dire Jésus avant son incarnation. D'accord ? Jésus, il a existé de toute éternité. Et jusqu'à, dans l'histoire du salut, qu'il s'incarne pour venir rencontrer les hommes avec une nature humaine, on parle en théologie de Jésus à Sarkos. Ce n'est pas quelqu'un de différent, c'est le même Jésus, mais dans son œuvre, conformément à ce qu'il avait décidé avec le Père, quand il vient rencontrer et accomplir le salut promis, le Messie promis, il devient en sarkos, c'est-à-dire dans la chair. Et à partir du moment où il est incarné, Jésus, il assume sa nature humaine. Et contrairement au moment où il va manger avec Abraham, où après il remonte au ciel, il n'a plus de nature humaine, il a pris pendant un temps juste une consistance pour pouvoir partager ce repas, mais au moment de l'incarnation, Jésus, il assume de façon définitive la nature humaine. Actuellement, il est au ciel encore avec sa nature humaine, il ne l'a pas abandonné à l'ascension, et quand on le verra aussi avec sa nature humaine. Et les deux cohabitent éternellement dans sa personne. Franchement, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre, que je ne peux pas expliquer en détail, mais la Bible le dit, c'est ce Dieu-là que nous adorons et qui s'est manifesté à nous, en Jésus-Christ. C'est tellement extraordinaire. Et si vous ajoutez ça à cette doctrine déjà compliquée, la double nature de Christ, la doctrine de la Trinité, alors là, on disjoncte, on n'arrive pas à suivre cette logique, cette altérité de Dieu qui est tellement différent de nous. Mais c'est ce Dieu-là qui est extraordinaire, qui dépasse l'imagination humaine et qui avait besoin de nous dire lui-même qui il est pour que nous le connaissions. Car sinon, à travers la révélation générale de la création, que contemplent les enfants quand ils vont à la pastorale à Matania, se disant que la nature est belle, il y a forcément un créateur là derrière. Oui, mais comment le connaître ? Si on n'avait que la création, on serait comme les autres peuples qui ont inventé des religions pour essayer d'amadouer le surnaturel. Mais en Jésus-Christ, à travers la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit, nous connaissons Dieu. Nous ne le comprenons pas entièrement, on ne peut pas l'enfermer dans un raisonnement, mais nous le connaissons, nous sommes en relation avec lui. Nous avons de façon certaine la possibilité de le connaître et de savoir qui il est et ce qu'il attend de nous. Et ça, c'est extraordinaire. Et j'espère que vous êtes les enfants d'Abraham par la foi et que vous aussi, un jour, vous mangerez avec Christ un repas plus merveilleux encore que celui que les trois ont partagé avec Abraham parce que vous êtes son enfant et qu'il vous connaît. Maintenant, l'Éternel jugera les pécheurs. Dieu a prévu de punir Sodome et Gomorre car le péché est arrivé à leur comble. Et dans la Bible, comme ça, vous avez de temps en temps des fléaux qui tombent sur des portions de l'humanité et on se dit, avec un raccourci qui n'est pas juste, oulala, le Dieu de l'Ancien Testament, il est terrible, il est énervé, et moi je crois plutôt au Dieu du Nouveau Testament. Pourquoi le Dieu du Nouveau Testament, il ne va pas juger les hommes? Celui qui parle le plus de l'enfer et du jugement dernier dans toute la Bible, c'est Jésus dans les évangiles. Une fois, je faisais des visites à un couple qui était en souffrance et qui recherchait Dieu sans être chrétien. Et l'homme était très humaniste, ouvert à plein de choses. Il se promenait dans la nature, il l'embrassait, il priait les arbres. Enfin, vous voyez, c'était un peu Dieu est partout, Dieu est nulle part, et c'est un Dieu commode que vous lui faites dire ce que vous avez envie d'entendre. Et après un an de visites régulières chez eux, qui était assez éprouvante, il y avait beaucoup d'opposition, c'était un homme qui avait touché à l'astrologie, et il me dit, si vous voulez continuer à venir nous parler de la Bible, il faut arrêter de parler de l'enfer. C'est pas possible que Dieu, qui est un Dieu d'amour, prévoit l'enfer et prévu un enfer. Et je lui ai dit, c'est pas moi qui décide ce que je dis. C'est dans la parole de Dieu. Jésus parle de l'enfer. C'est une triste réalité, mais c'est la réalité. Et la foi chrétienne, ce n'est pas une foi d'autruche qui met la tête dans le sable dès que quelque chose ne nous plaît pas et où on élimine et on enlève les choses qui ne nous conviendraient pas. Soit on dit tout l'évangile, soit on trahit l'évangile. Oui, il est question de jugement, et oui, Sodome et Gomorre, le déluge et d'autres jugements terribles qui sont tombés sur les hommes préfigurent le jugement dernier. Et c'est le même Dieu dans l'Ancien Testament qui était en colère contre le péché des hommes, qui sera en colère contre le péché des hommes au moment du jugement dernier. Ça ne nous réjouit pas, mais c'est une réalité, les amis. Et il faut qu'on proclame l'Évangile autour de nous pour que le Seigneur touche des cœurs et se glorifie par des hommes qui l'amènent à la repentance. Dieu dénonce l'augmentation du péché de Sodome et Gomorre. Le chapitre 19, si vous lisez le chapitre qui suit, montre à quel point la violence des habitants de Sodome était arrivée à leur comble et combien la déchéance sexuelle les avait poussés à une situation horrible, délétère, mais qui, soit dit en passant, semble de moins en moins étrange à nos contemporains dans la société dans laquelle nous vivons, qui explore elle aussi bien des chemins qui n'ont rien de naturel et encore moins biblique. Un des rôles des chrétiens dans le monde, c'est de dénoncer le péché et de prévenir les hommes autour de nous qu'ils auront à rendre compte à Dieu. Ce n'est pas un message très populaire ni très agréable. Et ça peut casser l'ambiance si à certains moments vous dites ça au milieu d'un repas où tout le monde se réjouit. Que le Seigneur nous donne la sagesse de savoir proclamer cela. Heureusement, on n'a pas que ce rôle-là de dénoncer le péché, on a aussi le rôle qui est celui d'Abraham-là, d'être intercesseur. Mais j'anticipe, on n'est pas encore au dernier point, mais ce rôle-là de médiateur, d'intercesseur, c'est aussi le nôtre. On doit dénoncer le péché, mais pour l'instant, on peut encore dire aux gens, mais il est encore temps, repentez-vous, et on peut prier pour que le Seigneur touche leur cœur. Et non seulement on peut, mais on doit le faire. On doit le faire. La prière du juste est d'une grande efficacité, nous dit la parole de Dieu. Il y a des personnes, on n'imaginerait jamais qu'elles se convertissent. Et pourtant, le Seigneur, il peut toucher les cœurs les plus endurcis. Qui aurait parié que l'apôtre Paul, qui allait persécuter l'Église, allait se convertir sur le chemin de Damas? Personne. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude. Certaines traductions disent qu'ils doivent se convertir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme, sous-entendu Jésus-Christ, qu'il a désigné. Voilà la façon dont Paul proclamait l'Évangile à Athènes. Et vous savez ce qui s'est passé? Il y a des gens qui l'ont suivi, mais la plupart des Athéniens, ils se sont moqués de lui quand il est arrivé à parler de la résurrection. Qu'importe! L'Évangile est proclamé. Comment dénonçons-nous le péché autour de nous afin d'amener nos voisins, nos collègues, nos amis, les gens de notre famille à une repentance authentique. On ne peut pas forcer les gens à devenir chrétiens. On ne peut pas leur imposer. Ça ne s'impose pas, la foi chrétienne. Ça vient du cœur, et si le Saint-Esprit ne touche pas le cœur, il reste endurci. Mais notre rôle, le Seigneur a décidé que nous, qui sommes des vases imparfaits, on devait proclamer la gloire de son évangile, et lui se charge du reste. Soyons fidèles, je prie qu'on soit fidèles. Ce qui n'est pas toujours simple et pas toujours confortable. Prions que le Seigneur nous montre pour saisir ces occasions de témoigner de l'évangile. Il y a aussi cette idée qui est parfois contraire à ce qu'on imagine dans le monde évangélique. Peut-être que vous avez déjà entendu cette formule qui vole un œuf, vole un bœuf, et pour les évangéliques, par opposition aux catholiques qui ont fait des catégories de péchés en disant il y a les péchés véniels pas très graves et les péchés mortels, et donc il y a toute une administration dans la confession, etc., les sacrements du catholicisme. Nous, on dit, nous les évangéliques, tous les péchés sont graves. Et c'est vrai d'une certaine manière, mais il ne faut pas laisser entendre par là que tous les actes qui sont des péchés aux yeux de Dieu ont la même gravité. Parce que Dieu ne considère quand même pas que quelqu'un qui frôle le fisc et quelqu'un qui massacre des gens à la tronçonneuse, c'est le même genre de péché et c'est la même gravité. Et dans la Bible, il y a bien des passages où Dieu montre, et là il le dit à propos de Sodome et Gomorre, le péché est arrivé à leur comble, et Jésus lui dit qu'il y a des villes, à l'époque où il vit, qui vont être jugées plus sévèrement parce que si à Ninive ou si à Sodome, il y avait eu la prédication de Jésus, ces villes se seraient repenties, alors que Capernaum, Bethsaïda, etc., ne se sont pas repenties. Et Nazareth, la ville où il a grandi, ils voulaient le tuer, alors qu'il venait de proclamer l'Évangile. Et dans la Torah, dans l'Ancien Testament, on voit que les punitions sont proportionnées à la gravité du délit. Il y a donc bien une hiérarchie dans la gravité des actes commis. Mais je ne suis pas en train de dire qu'il y a des péchés qui ne sont pas graves aux yeux de Dieu et qu'il y a des hommes qui vont échapper au jugement de Dieu parce qu'ils n'ont pas été des serial killers. Au moment du jugement dernier, on ne va pas être comparé à Hitler ou à Staline. Vous savez, des fois, les gens se disent « Ah, mais moi, je n'ai pas tué, je ne suis pas plus mauvais qu'un autre. » Oui, mais Dieu ne va pas te comparer. « Ah, t'es meilleur qu'Hitler, c'est bon, tu peux rentrer au paradis. » Non, c'est comparé à Jésus, t'en es où? T'es moins bien que Jésus? C'est l'enfer. Nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'échappons au jugement dernier, pas en raison de nos performances, mais par la grâce de Dieu et le sang de Christ qui a coulé pour nous. Et parce que le produit de notre péché, le châtiment que méritent nos fautes, est tombé sur Christ. C'est par cette substitution pénale que nous sommes sauvés. Mais nous méritons l'enfer tout autant que nos contemporains, peut-être plus, par nos actes. Et le péché, en dehors d'être des actes, c'est aussi la situation naturelle de l'être humain. Nous sommes pécheurs. Nous sommes nés dans le péché. C'est ce qu'écrit David dans le psaume 51. Il a été conçu dans le péché, et on peut dire ça, chacun d'entre nous. Le seul qui n'a pas été conçu dans le péché, qui n'a pas hérité du péché dans sa nature, c'est Christ. Et il n'a jamais commis de péché. Et la différence entre lui et nous, dans son humanité, c'est qu'en Christ, il n'y avait pas la petite voix intérieure qui dit « ce serait cool, de mettre un coup de tête à ce gars qui t'énerve. Ce serait cool de coucher avec cette femme qui n'est pas ta femme. » Ça, ce n'était pas dans le cœur de Jésus. Les tentations de la vie de Jésus, elles étaient extérieures, mais dans sa nature humaine, il n'y avait pas la corruption qui est dans la nôtre, qui fait que nous, on aime notre péché. On aime notre péché. Paul Wells, mon prof de systématique à la faculté Jean Calvin, il disait « c'est ça le problème avec notre péché, c'est qu'on l'aime bien. On n'a pas tellement envie de s'en séparer et au bout d'un moment, il nous fait souffrir et le Seigneur nous montre qu'on doit s'en séparer, mais finalement, le péché qui nous gêne le plus, c'est celui des autres, qui nous casse les pieds, mais le nôtre, on s'en accommoderait bien volontiers, n'est-ce pas ? Et on a besoin de méditer là-dessus et de revenir au pied de la croix et de mesurer ce que ça a coûté au Seigneur de payer le prix de mon péché pour que je sois appelé fils de Dieu. Je veux terminer avec « L'Éternel suscite un meilleur médiateur qu'Abraham ». Nous voyons dans cette histoire qu'Abraham, il intercède. Peut-être qu'on lit superficiellement, on se dit « Oh là là, c'est long ce passage, 50, 45, 30, 20, 10, tu ne peux pas aller directement de 100 à 5 et, ». Et on a l'impression de quelqu'un qui négocie un peu à l'oriental un prix, hein, il vend des tapis ou il négocie le prix d'une maison ou d'une voiture. Mais en fait, c'est pas juste de penser ça. Si vous regardez les termes dans lesquels la Bible parle à propos de l'attitude d'Abraham, Abraham, il tremble de prendre la parole devant Dieu. Et il met Dieu à sa place et il met lui à la sienne. Dans les propos d'Abraham, il reconnaît que Dieu est le juge de toute la terre. Et que Dieu, il n'a pas besoin d'écouter d'Abraham. Et s'il le fait, c'est parce qu'il le veut bien. Et parce que ça lui est agréable. Et là, vous voyez un autre principe qui est agréable à Dieu dans la vie de ses enfants, qui pointe à la fois vers le médiateur par excellence et qui pointe vers ce que le Seigneur attend de nous, qu'on soit aussi des intercesseurs. Alors Dieu est le juge de toute la terre et Abraham tremble de lui parler et de négocier et de dire « Mais ne t'irrite pas contre moi. » Est-ce que Dieu pourrait lui dire « Non mais qui es-tu pour intercéder ? Comment tu t'es comporté en Égypte avec Sarah ? Et tu l'as refait ? Et qu'est-ce que vous avez fait avec Agar ? Et je vous avais dit que je vous donnerais un fils et vous avez essayé par des moyens humains et vous êtes... » Dieu aurait plein de bonnes raisons de reprocher à Abraham son péché. Mais Abraham s'est humilié, il sait qu'il s'approche de Dieu par la foi, qu'il est au bénéfice de la grâce, et il est dans sa mission d'intercesseur, et cette mission d'intercesseur, elle est agréable à Dieu, comme Moïse intercédera pour que Dieu ne détruise pas Israël, et comme Jésus intercède pour nous, d'après la première lettre de Jean, chaque jour, il intercède pour les enfants de Dieu, il intercède pour que le châtiment de Dieu ne vous frappe pas, ni vous, ni moi, malgré notre péché. Mais pour que ce soit seulement l'amour et la grâce de Dieu qui se déploient en notre faveur. Genèse 18 préfigure le jugement dernier contre les pécheurs et la nécessité pour qu'il y ait un reste qui soit sauvé parmi les pécheurs d'un médiateur. S'il n'y a pas de médiateur, personne ne serait sauvé. Il est évident que la médiation d'Abraham est imparfaite. Abraham, il arrive tout juste à ce qu'il y ait Lot et ses deux filles qui réchappent. Mais par cet exemple-là, Dieu nous montre la façon dont il veut que sa justice fonctionne, dont il est glorifié. C'est lui qui décide qui va être sauvé et il lui est agréable que des hommes et que son fils en particulier intercèdent en faveur de son peuple pour sa gloire. Pour célébrer la gloire de sa grâce, comme il est dit dans Éphésiens. Et heureusement pour nous, Jésus-Christ est un meilleur médiateur qu'Abraham. Parce que Jésus, contrairement à Abraham, il n'a pas besoin de dire « ne t'irrite pas », comme si Abraham, quand il dit « ne t'irrite pas », il se dit, c'est comme s'il disait « ne te rappelle pas de mes péchés, dans ta grâce et dans ton amour ». Jésus, il n'a pas besoin de dire à son père « ne te rappelle pas de mes péchés ». Il n'a jamais péché. Il est agréable à Dieu. Il n'était pas possible que la mort le retienne. C'est le médiateur idéal, parfait selon le cœur de Dieu. Et d'ailleurs, la deuxième personne de la Trinité a ce rôle-là. Pourquoi tout à l'heure on parlait de l'ange de l'Éternel et pourquoi Jésus dit « Mais c'est moi qui ai rencontré Abraham ». Parce que le rôle, les trois personnes de la Trinité sont égales en puissance, en dignité, en gloire. Dans leur nature divine, rien ne les distingue l'une de l'autre, mais chaque personne est distincte et chaque personne a un rôle différent. Vous n'êtes pas sauvé parce que le Père est mort sur la croix et le Père n'est pas votre médiateur. Vous n'êtes pas sauvé parce que le Saint-Esprit a accompli le salut pour vous et que vous pouvez être sauvé en vous adressant directement au Saint-Esprit. Ce n'est pas à nous de choisir laquelle des trois personnes est notre médiateur, c'est Dieu qui a dit. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, et la colère de Dieu demeure sur lui. Jésus, de toute éternité, Christ a Sarkos et Christ en Sarkos. C'est le médiateur entre Dieu et son peuple, entre Dieu et sa création. Et soit il y a Jésus et on est sauvé, soit il n'y a pas Jésus et personne n'est sauvé. L'islam se trompe, le bouddhisme se trompe, le confucianisme se trompe, toutes les religions qui édulcorent, qui éliminent Jésus-Christ, les témoins de Jéhovah se trompent parce que dans le Jésus qu'ils présentent, ce n'est pas Dieu, c'est une créature. Eh bien, si c'est une créature, elle ne peut pas être médiateur avec le Dieu Tout-Puissant. Jésus est ce médiateur parfait vers lequel Abraham pointe à travers ce qu'on appelle la théologie biblique, le déploiement de l'histoire du salut à travers toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, et ça pointe vers Jésus-Christ et vers ce qu'il a accompli. Et ce rôle de médiateur qui est tellement important et dont nous sommes bénéficiaires, eh bien, il nous est montré en exemple dans la vie d'Abraham, dans la vie d'autres personnages. On est amené à l'imiter, non seulement pour ressembler à Abraham, mais encore plus pour refléter l'amour dont que Dieu déploie pour nous en Jésus-Christ, lui qui est le médiateur parfait. De la même manière qu'on doit pardonner comme il nous a pardonné, on doit intercéder comme il intercède pour nous. Et ça, c'est agréable à Dieu parce que ça met Dieu à sa place. Et on est là, tremblant, au pied de son trône et en même temps réjoui de lui appartenir. Et on intercède en faveur des gens qui nous entourent. Combien de temps passons-nous à prier pour les gens qui nous entourent afin que le Seigneur touche leur cœur ici à Toulon, à Grasse, sur la Côte d'Azur, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, en France, en Occident, dans ce continent qui se gargarisait d'être chrétien mais qui est le plus déchristianisé du monde. Il y a plus de chrétiens au Nigeria, il y a plus de chrétiens en Corée du Sud, il y a plus de chrétiens dans bien des pays et en Europe, on se gargarise d'être rationaliste, d'avoir tout compris, d'avoir le sommet de la civilisation sans Dieu. Et on est malheureux. Et les gens sont en train d'en mourir psychologiquement. Ils ont besoin d'églises qui proclament l'évangile. Ils ont besoin d'intercesseurs qui prient pour que des personnes soient touchées, pour que Dieu soit glorifié par sa grâce déployée en Jésus-Christ. Et le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont à l'œuvre dans cette œuvre-là. Mais sans la médiation du Fils, il n'y a pas de salut accompli. Et nous serions sans espérance. Jésus-Christ, c'est ce médiateur parfait fourni par Dieu, Dieu lui-même. Est-il votre médiateur? Est-il votre avocat auprès du Père? Sinon, approchez-vous de lui avec repentance et foi et suppliez-le de vous pardonner et de vous sauver. Et si oui, goûtez-vous chaque jour la joie d'être son enfant aimé, car il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 1. Prière. Notre Dieu, notre Père, c'est toi qui es le juge de toute la terre. Tu es le Dieu très saint et nous sommes pécheurs et indignes de toi, mais dans ton amour manifesté en Jésus-Christ, tu fais de nous tes enfants. Par pure grâce. Seigneur Jésus, merci, parce que tu es un médiateur parfait. Tu as satisfait ta justice, la justice de Dieu, à notre place, en payant le prix de notre péché, afin que nous ne soyons pas condamnés en tant que pécheurs, mais que nous soyons lavés du péché et de ses conséquences. Merci, Seigneur, pour l'histoire d'Abraham et de Sodome, qui nous montre l'horreur du péché et la nécessité de nous réconcilier avec toi, par la foi dans l'humilité. Donne-nous de vivre comme des enfants qui honorent leur Seigneur et leur Sauveur. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen.